Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. C'était donc ça le monde d'après, ce monde que l'on espérait meilleur après la pandémie, après les premiers mois de confinement en 2020, un monde prospère certes d'un point de vue économique, quand les restrictions seraient levées, mais aussi un monde plus respectueux de l'environnement, un monde plus solidaire entre riches et pauvres, entre pays développés et pays moins développés. Au lieu de cela, qu'avons-nous ? Une guerre impliquant l'une des grandes puissances de la planète, une inflation généralisée, elle crève les plafonds en Europe et aux États-Unis, des crises alimentaires et énergétiques. On a aussi des pénuries de biens et de main-d'œuvre. Exemple criant ces jours-ci dans les aéroports.
Retard, annulation de vols, les aéroports canadiens sont confrontés à d'importantes pénuries de main-d'œuvre. L'industrie manque de pilotes, d'agents de bord et d'embarquement, et peine à recruter et retenir son personnel en raison de conditions de travail souvent précaires et stressantes. Les mises à pied des deux dernières années ont laissé un vide que les aéroports et les transporteurs ont bien de la difficulté à combler.
Alors sans faire de catastrophisme, que prévoir pour les prochaines semaines et les prochains mois ? La Chine panse ses plaies du zéro Covid, la récession guette les États-Unis, les Occidentaux bataillent contre l'inflation, de nombreux pays sont confrontés aux problèmes énergétiques et réactivent leurs centrales à charbon. Et dans le même temps, des sanctions toujours fortes contre la Russie engagée dans un combat militaire sans merci en Ukraine. Un rideau de fer est en train de s'abattre sur l'Europe, annonce le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Inflation contre sanctions, analyse dans quelques secondes avec Agathe Demarais, économiste basée à Londres. Un écho d'ici, écho d'ailleurs très dense, avant la pause rediffusion de l'été. Entretien exclusif accordé à RFI par les dirigeants de Huawei en Afrique. Ils nous ont dévoilé leur stratégie pour les années à venir, le cloud, la protection des données, la cybersécurité, les villes intelligentes, la couverture réseau. Le groupe chinois répond aussi aux accusations d'espionnage, à ne pas manquer. La Chine, justement, pour faire redémarrer son économie, malgré le manque de main-d'œuvre, on fait appel aux robots. Les chaînes de production s'automatisent. Reportage tout à l'heure avec Stéphane Lagarde. Reportage aussi en Tunisie, dans le secteur de l'éducation numérique, un filon pour GoMyCode, une start-up implantée dans plusieurs pays africains. Et nous serons enfin avec le patron d'Inetom, une très grosse société française, elle aussi dans le secteur des solutions numériques, elle aussi présente en Afrique. Comment grandir sans se brûler les ailes ? Voilà le meilleur pour cet écho d'ici, écho d'ailleurs, avant de reprendre des forces en vue de la seconde partie de l'année 2022. Clin d'œil à nos auditeurs, internautes, qui nous rejoignent chaque jour sur notre page Facebook RFI Echo. Zahra Djoubran, Général Mustapha, Abdoul Diallo, bonne émission à tous. Et nous accueillons donc notre première invitée de marque, Agathe Demarais. Bonjour.
Bonjour, ravie d'être parmi vous.
Vous êtes en ligne de Londres, vous dirigez les prévisions mondiales de l'Economist Intelligence Unit. C'est un centre de recherche indépendant du magazine The Economist. Vos travaux portent notamment sur les sanctions et notamment en lien avec la Russie. C'est d'abord à ce titre que l'on voudrait vous entendre. Après un peu plus de 4 mois de guerre, diriez-vous que la Russie est touchée économiquement en son cœur ?
Oui, absolument. C'est une évidence. La Russie est touchée économiquement en son cœur par les sanctions. Alors, il y a eu énormément de discussions quant au fait que le rouble a repris des couleurs après avoir perdu beaucoup de sa valeur. Il y a également beaucoup de discussions sur l'impact à long terme ou à court terme des sanctions. Mais ce qu'on voit, c'est que l'économie russe s'achemine vers une récession d'environ 10% cette année, avec une chute très forte de la consommation des ménages, également une baisse des importations. Donc, clairement, l'économie russe souffre. Mais en fait, ce qui est plus intéressant à voir, c'est l'impact des sanctions sera surtout ressenti à long terme, puisque ces sanctions en fait vont avoir un impact sur la capacité de la Russie à continuer à extraire du gaz et du pétrole, puisque les sanctions restreignent l'accès de la Russie aux technologies occidentales dans le domaine de l'énergie, et également ces sanctions touchent l'accès de la Russie aux semi-conducteurs, qui sont des éléments cruciaux pour toutes les applications technologiques et tous les objets technologiques. Et donc à long terme, on va voir en fait une asphyxie de la Russie.
On va parler énergie. Juste un mot du rouble, il est effectivement très haut, au plus haut face au dollar, au plus haut depuis 7 ans. C'est même la monnaie la plus performante cette année. C'est ce qu'on nous dit cette semaine. Ça veut dire que l'arme monétaire n'a pas fonctionné ?
Alors en fait, ce que ça veut dire, c'est que la Russie a réagi très fortement aux sanctions qui ont été mises en place et qui ont au départ entraîné un décrochage du rouble. En fait, ces sanctions ont entraîné le gel d'une partie des réserves de la Banque centrale de Russie, environ 300 milliards de dollars, la moitié des réserves de la Banque centrale de Russie, et ont rendu difficile pour la Banque centrale de Russie de défendre sa monnaie. Sauf que la Russie a réagi très fortement, elle a imposé en fait des contrôles des capitaux et elle a toujours accès à la moitié de ses réserves de change qui sont en rouble, en renminbi, donc la monnaie chinoise, ou en or. Et donc la Russie a pu continuer à défendre sa devise par ce biais. Et après, ce que cela traduit également, c'est que la Russie continue à exporter son pétrole et son gaz. Elle trouve de nombreux acheteurs pour son pétrole, notamment en Chine et en Inde, à un prix réduit. Et tant que la Russie parviendra à exporter son pétrole, le rouble continuera à être une devise qui, en fait, enregistre une bonne performance. Donc c'est surtout cela que ça traduit.
Eh bien, effectivement, cette arme énergétique contre les Occidentaux et en particulier contre les Européens, avec Moscou qui a mis en garde, plafonner le prix du pétrole russe, comme l'envisagent les Occidentaux, ça entraînera un déficit de production et donc une flambée des prix pour les Européens. Jusqu'où ça va aller ?
Alors, c'est difficile en fait de faire des prévisions pour savoir jusqu'où ça va aller. Cette décision potentiellement d'imposer un plafond sur le prix des exportations de pétrole russe, ça serait une décision extrêmement politique. Mais il y a de fortes chances effectivement que ça entraîne une hausse du prix du pétrole en limitant en fait la capacité de la Russie à exporter et donc en poussant le prix du pétrole encore plus haut qu'il ne l'est actuellement. Donc c'est une décision qui est difficile. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une décision qui nécessiterait la coopération des entreprises dans le secteur des assurances, parce qu'en fait, ce mécanisme demanderait, ce serait que les assureurs internationaux cessent d'assurer les cargos de pétrole russe. Mais pour ce faire, il faudrait que les assureurs internationaux, qui sont notamment basés à Londres, puissent contrôler en fait le prix des cargaisons et ce qu'il y a sur les cargos. Et donc, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Mais les États-Unis disent aux assureurs, si vous ne le faites pas, on vous placerait sous sanction. Et ça, c'est une stratégie que les États-Unis ont souvent employée, notamment, par exemple, pour mettre l'Iran sous sanction.
Vous avez parlé du prix du pétrole, qui effectivement pourrait devenir insupportable pour un certain nombre de consommateurs dans le monde. L'inflation qui flambe dans de nombreux pays. Je voudrais que l'on écoute Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Pas très optimiste quand même.
L'inflation en zone euro est excessivement haute et il est prévu qu'elle reste élevée dans les mois à venir. Cela représente un grand défi pour notre politique monétaire. En juillet, nous allons augmenter pour la première fois en 11 ans nos taux directeurs. Nous allons poursuivre cette stratégie de normalisation monétaire. Nous irons aussi loin que nécessaire pour stabiliser l'inflation et la ramener à moyen terme à 2%.
Agathe Demaret, directrice des prévisions mondiales de l'Economist Intelligence Unit. Est-ce que cette arme de l'inflation ne va finalement pas tout retourner ? Dans la politique des Occidentaux, on voit bien que sur cette question énergétique, certains pays occidentaux sont déjà en train de réactiver leur centrale à charbon, par exemple.
Oui, absolument. Et en fait, c'est tout à fait la stratégie de la Russie. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'unité entre les Occidentaux depuis les premiers mois de la guerre. Et pour l'instant, cette unité reste. Mais en fait, la stratégie de la Russie, qui va être une stratégie de long terme, va être de dire qu'avec le choc que la guerre en Ukraine provoque sur les marchés des matières premières et la hausse des prix des matières premières énergétiques, petit à petit, l'inflation va continuer à monter. Et on arrive en fait à des niveaux d'inflation extrêmement élevés qui n'ont pas été vus depuis le début des années 1980. Et en fait, cela pourrait provoquer des divisions au sein des pays occidentaux qui pourraient dire à un moment qu'ils ont en fait besoin de limiter l'inflation et donc potentiellement de prendre des mesures qui viseraient à alléger les sanctions qui ont été imposées sur la Russie. Donc c'est en fait la stratégie de la Russie, mais effectivement l'inflation est la grande question pour les gouvernements actuellement avec toutes les questions sur le pouvoir d'achat.
Agathe Demaret, pour rebondir sur les propos de Christine Lagarde, est-ce qu'on entre dans un monde d'inflation pour longtemps ? Et est-ce que les banques centrales ont la clé ou est-ce qu'elles ne l'ont pas ?
Alors pour l'instant, les banques centrales en fait ont des difficultés à limiter l'inflation. C'est ce qu'on voit notamment aux États-Unis où en fait la Fed a commencé la remontée des taux directeurs, mais pour l'instant l'inflation reste extrêmement élevée. Et en fait cela est dû au fait que l'inflation en l'espèce est due à un choc externe, c'est-à-dire la hausse des prix des matières premières que la guerre en Ukraine a entraîné. Alors après si on regarde les choses même depuis avant la guerre en Ukraine, l'inflation de toute façon allait être extrêmement importante cette année avec la réouverture des économies mondiales suite à la crise du Covid et avec toutes les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, les supply chains, qui en fait de toute façon allaient provoquer une forte inflation. Donc on avait déjà une situation dont je dirais qu'elle était un petit peu explosive et la guerre en Ukraine a augmenté en fait cette situation, elle a vraiment fait exploser les choses. Donc après la question c'est est-ce que les banques centrales pourront limiter l'inflation ? Cela paraît difficile, même si on aura mécaniquement une baisse de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix dans la deuxième moitié de l'année ou en 2023. Mais en termes de niveau des prix, on va quand même rester à des niveaux très élevés pour un certain nombre de mois.
Les États-Unis, justement, qui semblent courir vers une récession, en tout cas il y a des avertissements dans ce sens, comment vous analysez cela ? Est-ce que Joe Biden va pouvoir justifier longtemps sa politique de fermeté contre Moscou ?
C'est exactement la question en fait, puisque l'inflation est devenue un problème majeur. On a des consommateurs qui disent qu'en fait ils ont du mal à remplir leur panier au supermarché et Joe Biden a un problème supplémentaire, c'est qu'il y a les élections de mi-mandat, les midterms, qui arrivent début novembre. Et dans ces élections, il y a de fortes chances que les démocrates, donc le camp de Joe Biden, perdent ces élections, ce qui serait une catastrophe pour les démocrates. D'un côté, il paraît inimaginable de ne plus être dur face à la Russie compte tenu de la barbarie et de l'invasion en Ukraine. Mais d'un autre côté, comme tout politicien, Joe Biden sait qu'il a des impératifs de politique intérieure et donc la situation est extrêmement difficile pour lui et on ne voit pas de bonne solution facile.
La question des salaires qui n'augmente pas vraiment, est-ce qu'elle va vite se poser pour les dirigeants d'entreprise notamment et pour les gouvernements ?
Oui, alors cette question se pose déjà. Par exemple, si on regarde les États-Unis, les hausses de salaire sont importantes puisqu'en fait, on fait face à un marché de l'emploi qui est assez dynamique aux États-Unis. Mais même les hausses de salaire qui sont importantes aux États-Unis ne compensent pas l'inflation. Et donc, les salaires réels baissent. Et c'est une situation qu'on pourrait également voir dans la zone euro à brève échéance, comme on le voit en France d'ailleurs, avec toutes les discussions sur le pouvoir d'achat.
Avec la présentation d'un projet de loi, effectivement, dans les prochains jours. Agathe Demaret, vous préparez la sortie d'un livre sur les effets des sanctions américaine. Il s'intitule Backfire. Comment on pourrait traduire ce mot ?
Alors, ce serait retour de flamme. Mmh. Effectivement, c'est un livre sur les effets secondaires des sanctions américaines. C'est-à-dire que l'idée derrière ce livre, c'est de dire que les sanctions américaines ont des effets non seulement sur leurs cibles, donc par exemple l'Iran, la Russie, la Corée du Nord ou le Venezuela, mais également sur des centaines de millions de citoyens dans les pays qui sont touchés. Par exemple, en Iran, les sanctions ont pu rendre difficile l'accès à des traitements contre le Covid, ou également sur les multinationales. On pense également, par exemple, au cas de Total qui avait dû quitter l'Iran suite au retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran et enfin avec les gouvernements. Parce que ce qu'on voit, c'est que les sanctions en fait provoquent une fragmentation du paysage géopolitique et économique et financier international avec des pays comme la Chine et la Russie qui petit à petit mettent en place des infrastructures, notamment financières, pour échapper aux sanctions internationales. Et donc à long terme, qu'est-ce que cela veut dire pour les sanctions américaines ? Eh bien, elles pourraient en fait perdre de leur efficacité, ce qui serait évidemment un changement très important pour la diplomatie américaine.
Eh bien, je crois qu'on va être obligé de vous réinviter, Agathe Demaret, pour parler de cet ouvrage Backfire, qui doit être publié à la fin de l'année aux presses universitaires de Columbia, l'une des grandes universités aux États-Unis. Merci Agathe Demaret, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
RFI, Radio France Internationale.
Voilà, le décor est planté pour cet été économique qui s'annonce incertain. L'info économique sur RFI à suivre au quotidien dans nos journaux et dans nos chroniques. Sachez que dans quelques semaines, au mois d'août, aujourd'hui l'économie vous proposera plusieurs séries avec de belles surprises. Avant cela, et avant comme promis d'entendre les dirigeants de Huawei en Afrique, un reportage en Chine où l'activité repart peu à peu grâce à une baisse des contaminations au Covid-19 et à la levée des restrictions sanitaires dans les mégalopoles. Comment faire redémarrer la machine industrielle alors que la main-d'œuvre n'est pas forcément disponible là-bas aussi ? Eh bien, on fait appel aux robots. Notre correspondant Stéphane Lagarde s'en est rendu compte lors d'un sommet des multinationales à Qingdao, sur la côte est de la Chine.
Des robots et des hommes à Qingdao, devant le Centre international des expositions qui reçoit ce troisième sommet dédié aux grands groupes, la mère ainsi qu'un drôle de personnage en acier, tête ballon, deux grands yeux ronds et au bout des bras articulés, deux longs pinceaux.
C'est un robot calligraphe. Ses bras sont constitués de six essieux et il peut écrire des deux mains en même temps.
Un robot calligraphe qui attire les visiteurs. Nous sommes quasi les seuls étrangers à arpenter les allées de la foire. Restrictions sanitaires, manque d'avions. Une partie des participants sont présents uniquement sur écran, ce qui n'empêche pas les ventes. Ici, un mini-hélicoptère gris sans pilote. Wang Deliang, exposant.
Nous enregistrons une augmentation de nos ventes chaque année depuis sa mise au point. Cet appareil sert notamment à la pulvérisation de pesticides sur les grands champs du Xinjiang à l'ouest ou du Dongbei au nord-est de la Chine. On vend aussi à la Corée du Sud. Il a une autonomie de 10 hectares.
Des robots pour tout, partout, notamment pour accéder aux zones dangereuses des usines ou pour nettoyer les hôpitaux qui traitent les patients atteints de pneumonie virale. Les semi-conducteurs ne sont pas les seuls à tirer leur épingle du jeu de l'ère Covid. Les systèmes d'automatisation des usines se vendent aussi comme des baozi, les petits pains farcis cuits à la vapeur. Zhang Zhuoling est vice-président des opérations Grande Chine chez l'allemand Festo, qui revendique 12 000 salariés ici.
Nous avons été confinés de fin avril à début mai, pendant 2 semaines. Alors bien sûr, cela a eu un impact sur la logistique et les livraisons. Nous avons eu aussi des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement. Ce qui ne veut pas dire que les commandes sont tombées. Au contraire, nous avons enregistré 5% d'augmentation du volume de travail. Pour cette année, nous maintenons toujours une perspective de croissance à 2 chiffres. Comme vous le savez, Festo travaille sur les industries de l'automatisation pneumatique et électrique, qui ont été peu impactées par la pandémie. On voit bien aujourd'hui qu'il est toujours difficile d'embaucher des employés, et surtout de les retenir. Et puis de l'autre côté, il y a cette forte demande d'industrialisation des process, moins dépendante de la main-d'œuvre.
Des robots qui travaillent H24 alors qu'il est difficile de recruter, que les salaires augmentent en Chine. Le secteur a de beaux jours devant lui, même si les autorités veillent sur la courbe du chômage comme le lait de soja sur le feu. Organisé par le ministère du Commerce, ce troisième sommet des multinationales à Qingdao vise aussi à attirer de nouveaux investisseurs pour créer des emplois.
Formidable reportage de Stéphane Lagarde, notre correspondant en Chine. La Chine à la croisée des chemins, en dehors de ses problèmes internes. Les nouvelles routes de la soie sont perturbées par la guerre en Ukraine. La Chine, rejetée parfois en Occident et qui vise de nouveaux marchés ailleurs, en Afrique évidemment. L'ambassadeur numéro 1, c'est Huawei, géant des technologies au sens large. Ses dirigeants ont accordé un entretien exclusif à Echo d'ici, Echo d'ailleurs. C'était lors de notre passage à Abidjan pour l'Africa CEO Forum pour parler de tous les sujets, y compris des sujets qui fâchent. Ce que l'Afrique peut attendre du reste du monde et ce que le reste du monde peut faire pour l'Afrique, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies, Internet, la téléphonie mobile, les infrastructures. Bonjour Philippe Wang.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, chargé donc de l'Afrique et de l'Afrique du Nord. Partons de l'actualité la plus proche, la crise alimentaire qui touche de nombreux pays, notamment en Afrique. Comment Huawei, grâce au numérique, peut aider pour favoriser la souveraineté alimentaire et développer des systèmes agricoles?
C'est très important pour la stabilité au niveau économique et social du continent. Huawei, notre devoir, c'est vraiment mener la meilleure technologie. Ça deviendra un moteur très puissant pour aider d'autres industriels de se moderniser. Huawei, on ne fait pas directement dans l'agriculture. Plutôt, c'est on aide les acteurs dans ce domaine d'améliorer leur productivité, leur façon de travailler. Par exemple, pour un sol, est-ce qu'on peut évaluer quel type de plante on va planter? Avant, il faut qu'on fasse analyse, des échantillons. Ça prend beaucoup de temps. Maintenant, si on peut développer un senseur pour analyser les composants de la terre, mieux transmettre toutes ces informations dans le cloud par intelligence artificielle. Tout ça, ça deviendra un outil indispensable dans le secteur agricole.
Développer l'économie grâce au numérique, c'est aussi le secteur de l'éducation, de l'emploi des jeunes. Mais pour cela, il faut une forte pénétration en haut débit. Et on sait qu'en Afrique, c'est souvent assez faible. On l'a vu pendant la pandémie, beaucoup d'étudiants qui avaient du mal à étudier à distance.
Exact, parce que la notion l'économie numérique, ce n'est pas juste économique. Ça, c'est un problème social, éducatif. Il faut qu'on ait une base solide. Ça veut dire que c'est la formation des jeunes qui comprennent, qui peuvent maîtriser la technologie ICT. Ça, c'est la base. Il faut qu'on ait un cadre législatif favorable aux investissements dans ce secteur-là. Et puis, il faut avoir une infrastructure solide, évolutive dans la technologie mobile et fixe. Et puis, au-delà, il faut avoir une plateforme de cloud qui peut digitaliser tous les services dans le secteur privé et dans le secteur public.
L'infrastructure, c'est la priorité absolue pour vous ?
Pour moi, l'infrastructure, c'est capital. C'est comme l'autoroute. Si les capitales ou les grandes villes ne sont pas liées par les autoroutes, on ne peut pas se permettre de développer l'économie. Dans le monde virtuel aussi.
Et ça, vous trouvez que l'Afrique a pris du retard ?
En fait, c'est l'Afrique, elle avait pris du retard, mais elle se rattrape très vite. Mais évidemment, il faut qu'on encourage l'investissement public-privé à aller encore plus loin dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'on discute avec différents gouvernements, avec nos partenaires.
Quand on parle d'infrastructure, il y a un point stratégique, ce sont les câbles sous-marins.
Oui, c'est une très bonne question parce que l'Afrique, au niveau géopolitique, géographique, c'est dans le cœur du monde. Beaucoup de câbles sous-marins sont déjà passés par l'Afrique. Mais pour répondre aux besoins d'une population de 1 milliard 200 millions, il faut avoir plus de connectivité, plus de bandes passantes pour répondre à ces besoins qui augmentent très vite, en moyenne 20-30% par an, une augmentation.
Quels sont vos projets là, en ce moment ?
Et en fait, on a déjà travaillé plusieurs projets en Cameroun, en Cap-Vert par exemple, et main dans la main avec nos partenaires pour livrer plus de câbles sous-marins.
Huawei est soumis à une forte concurrence dans le monde, parfois même boycotté. Est-ce que l'Afrique est le marché pour vous à l'échelle mondiale qui présente le plus de potentiel ?
Tout d'abord, pour le boycotter de Huawei, je pense que c'est injuste. Parce que ce n'est pas pour une raison objective. C'est pour une raison, plutôt c'est au niveau politique. Et nous sommes une entreprise privée. On ne veut pas être impliqué dedans, mais quelquefois on est forcé. Mais pour les 3 ans passés, et on se développe, on se tient très bien, grâce à la confiance accordée de nos partenaires. Donc je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Et l'Afrique, ça reste toujours le marché stratégique pour nous. Parce que l'Afrique, il a plus de potentiel dans le monde entier. Et la population, c'est le plus jeune. Donc c'est la nouvelle génération qui va piloter le futur. Donc c'est notre philosophie, c'est en investir dès maintenant pour essayer d'être bien positionné. Et on va continuer notre business et notre engagement et notre investissement dans ce continent-là.
Que peut faire Huawei pour l'Afrique en termes de transformation digitale ? Nous sommes aussi avec Colin Ho. Vous êtes le directeur business, entreprise et cloud pour Northern Africa, donc la zone Afrique et Afrique du Nord pour Huawei. Le développement des data centers, le développement du cloud, d'un point de vue rentabilité, c'est vraiment ça qui est le plus stratégique aujourd'hui pour Huawei ?
Okay, for Huawei, you know, we believe the data center business for Huawei, we are a technology provider, and as data, the consumption of data or in the data centers of whole Africa is only 0.5% of the global usage. So it means that's a great potential.
Le potentiel du cloud, on le voit par exemple pour une entreprise américaine comme Microsoft, c'est devenu presque l'essentiel, avec la question aussi derrière de la protection des données.
C'est une question très sensible. La gestion des data doit être encadrée. Certains pays disposent déjà de législations pour les protéger. En Europe, il y a le RGPD. En Égypte, ils ont mis en place un règlement il y a 2 ans. En Afrique, 18 pays ont déjà des lois. C'est une question de souveraineté. Chaque pays aura la possibilité de renforcer ses lois. En revanche, il faut voir comment l'Afrique peut devenir un marché ouvert tout en se protégeant. Si les data ne peuvent pas être transférées entre les pays, le marché sera mal organisé. Ce ne sera pas bon pour l'économie. Nous sommes favorables à la souveraineté numérique et nous encourageons un marché ouvert.
Pour le business, pour les entreprises, la cybersécurité est devenue une préoccupation très très forte. Quels sont vos investissements dans le domaine de la cybersécurité pour les entreprises en Afrique ?
La cybersécurité, c'est très important pour Huawei, qui est une société internationale et qui fournit des services à plus de 170 pays pour tous les opérateurs. Ce sont des activités critiques, donc nous visons toujours la meilleure qualité. Nous aidons nos clients et nos partenaires à adapter les technologies. Nous partageons nos expériences, les process, ainsi que nos savoir-faire en matière de cybersécurité. Nous avons créé plusieurs centres dédiés à la cybersécurité et à la transparence. Nous y invitons nos clients et partenaires à tester leurs produits et à faire monter en compétences leurs employés.
Je pense que la cybersécurité, c'est une question très sensible, très importante, très vitale pour se développer au niveau économique et social. Parce que comme vous disiez, les attaques, ça va endommager sur le plan économique, aussi sur le plan social. Qu'est-ce qu'on fait ? Huawei. On a fait dans plusieurs niveaux. Tout d'abord, on communique avec le gouvernement. Au niveau des installations, il faut qu'on donne notre suggestion. C'est la vision de la part d'un équipementier, comment on peut améliorer, comment on peut aider à avoir un cadre législatif qui répond à ce challenge. Deuxième, c'est qu'on travaille au niveau de l'écosystème pour sensibiliser l'ensemble d'acteurs dans ce domaine. Troisième, c'est pour nous-mêmes qu'on va bien analyser, bien suivre toutes les lois dans ce continent, régionale, internationale, pour que notre solution soit à la conformité dès la naissance, dès la conception. Ça, c'est notre devoir de la part de Huawei. Donc, trois niveaux qu'on aimerait bien continuer à travailler avec le gouvernement, avec les partenaires, pour mieux protéger ce marché. C'est l'intérêt public.
Il y a un projet qui court, des projets qui courent depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, les villes numériques, les villes intelligentes, smart cities. Est-ce que ces projets ont réellement avancé là dans les villes africaines ou est-ce que c'est encore un rêve ?
Les smart cities, on en parlait beaucoup il y a 7 ou 10 ans, mais ça s'est calmé ces dernières années. En Afrique, on n'en est qu'au commencement. Ces projets se mettent en place dans de nouvelles villes, en Égypte par exemple. Mais on ne peut pas copier ces concepts en Afrique. On ne peut pas installer des poubelles dans la rue qui seraient toutes connectées.
Nous devons adapter les villes intelligentes aux contraintes africaines.
Il y a quelques années aussi des soupçons contre Huawei, une ville surveillée, c'est Huawei qui va nous espionner. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Nous fournissons des équipements et des services aux clients. Tout est sous le contrôle des clients. Une fois que le projet est livré, tout est remis aux clients. Huawei fournit des technologies pour les entreprises et pour tout le monde. La plupart sont disponibles sur le marché et la plupart sont compétitives sous une architecture ouverte, des normes communes utilisées par nos clients.
Pour moi, c'est juste, j'aimerais bien vous donner deux cas pour clarifier notre responsabilité dans le scénario Smart City. Admettons, un constructeur de votre maison, Huawei, on joue le rôle comme un constructeur de la maison. C'est le technology provider. Une fois la maison elle est construite, c'est qui va habiter? C'est le propriétaire. Huawei, on n'y plus rien. Une fois la clé a passé, après, c'est le propriétaire qui gère la maison par lui-même. Deuxième cas, c'est comme construire une autoroute. Une fois l'autoroute est construite par Huawei, je dirais dans le monde digital, c'est l'autoroute virtuelle construite par Huawei. Après, la question plus importante, c'est qui va gérer? C'est le gestionnaire qui est responsable. Bien évidemment, Huawei, on va l'aider à leur demande. Donc, on n'a pas la main. On ne gère pas directement les data. Donc, finalement, nous sommes un constructeur, un fournisseur des solutions, de la technologie. C'est le propriétaire de la solution finale qui va gérer, qui va vous protéger. Et notre relation avec notre partenaire, c'est une relation transparente parce que tout ça, ça passe par appel d'offres, c'est évalué par différents critères.
Toute dernière question, Huawei qui fournit des appareils électroniques, des infrastructures, des centres de données, qui est dans l'éducation, l'agriculture, même dans le secteur financier, dans la numérisation du secteur bancaire, j'ai vu ça en Algérie. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça peut inquiéter dans un pays autre que la Chine?
Nous travaillons dans tous les pays. Nous fournissons des infrastructures télécom aux habitants avec des technologies récentes, ce que les gens apprécient. De plus, nous recrutons localement en Afrique. La plupart du temps, nous ne travaillons pas directement avec les consommateurs, mais avec des partenaires pour créer ensemble des solutions. Nous ne devons pas oublier les personnes qui n'ont pas ou ont peu de connexion. Ces cinq dernières années, nous avons travaillé dans différents pays, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, pour développer la couverture du réseau en zone rurale. Au Ghana, elle est passée en 5 ans progressivement de 65% à 97%. C'est un modèle qui mérite d'être reproduit dans la région. Nous sommes très fiers de ça.
Pourquoi on est partout? Parce que notre business, c'est la plateforme pour répondre à tous les besoins. Oui, oui, on aimerait bien travailler avec main dans la main avec nos partenaires pour répondre à tous ces besoins-là. Donc, le marché est assez grand pour prendre tout le monde. Et ça veut dire, je vous donne un exemple très, très simple, c'est comme le fameux Windows. Tout le monde utilise. Personne qui voit comme une menace parce que c'est un outil très utile. Oui, oui, on aimerait bien devenir, entre guillemets, jouer un rôle comme ça. Et dernier point, c'est pour nos partenaires qui nous connaissent bien, ils le savent. Huawei, une fois notre périmètre est clair, après nos partenaires, ils nous considèrent comme une partie de la solution, pas une partie de la menace.
Merci Philippe Wang.
Merci.
Thank you, Colin Hu.
Thank you very much. Thank you.
Les projets de Huawei en Afrique, entretien à lire dans sa version écrite sur le site internet de RFI, rfi.fr.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
On a commencé à aborder la question, la formation des jeunes au numérique, un marché qui prend de l'ampleur en Afrique. On appelle ça la EdTech. Coup de projecteur sur une start-up tunisienne implantée à Casablanca, Abidjan, Dakar, Lagos ou encore Le Caire, bientôt à Kigali, à Accra ou encore à Nairobi. GoMyCode, spécialisé dans les cours de codage informatique, veut encore accélérer sa croissance. Notre correspondante à Tunis, Amira Souilem, s'est glissée sur les bancs de cette école un peu particulière.
GoMyCode fait le plein. Dans le hall d'entrée, les parents qui souhaitent y inscrire leurs enfants se succèdent. À l'image de cette maman d'une jeune fille de 16 ans.
Les profs d'informatique disent beaucoup de bien de GoMyCode. La formation va durer 3 mois à raison de 4 heures par semaine et j'ai payé l'équivalent de 230 euros. J'ai aussi deux petites filles de 12 et 10 ans. Je crois que je vais les inscrire ici aussi.
Des codeurs en culottes courtes, on en a croisé de très très jeunes ici. Au dernier étage de cette vaste villa qui fait office d'école de coding, le cours des kids, comme on dit ici.
Les blocs de capteurs, les blocs...
Pendant que le petit Sem y découvre les consignes du jour, son ami, Tahar, 7 ans, a déjà fini le premier exercice.
Si t'es un peu perdu, je peux te donner un indice.
Ici, les enfants sont libres de discuter, de circuler librement dans la classe.
Local. Hey, pas touche à mon ordinateur. T'es sérieux? Je vais aller le voir.
J'ai pas fini, Tahalma. Tu restes avec moi?
Ok.
Qu'est-ce que tu espères que ça va t'apporter, ce cours? À quoi te sert l'informatique, en fait?
L'informatique, bah, ça va me servir à partir sur Internet, à ne pas... Parce que papy me dit des fois, fais attention sur Internet, parce qu'il peut y avoir des voleurs, ça peut m'apprendre à me protéger des voleurs et ça pourrait me permettre de faire un jeu et de commencer à faire un petit film.
À tous les étages, des dizaines de jeunes gens apprennent des langages informatiques différents. Au sous-sol, ce jour-là, des adolescents s'initient à l'intelligence artificielle.
T'as compris le truc que je t'ai expliqué tout à l'heure?
Leur instructrice est à peine plus âgée qu'eux.
Raza Hamd, j'ai 24 ans. Je suis encore étudiante, data scientist, future data scientist. On leur apprend comment parler et interagir avec une machine. Quand on a une idée en tête, il faut d'abord connaître et comprendre l'algorithmique et c'est la logique avec laquelle la machine pense, on va dire.
À ses débuts, il y a 6 ans, la start-up occupait une seule salle dans cette vaste villa. Depuis, il a fallu pousser les murs. GoMyCode compte désormais 9 antennes rien qu'à Tunis et 20 sur le continent. Derrière ce succès, Yahya Bouhlel, 25 ans, que nous retrouvons au siège de GoMyCode.
Donc là, on est au Lac 2, c'est un des quartiers d'affaires de Tunis, c'est peut-être même le quartier d'affaires de Tunis. Et il y a un petit détail qui m'a fait sourire en arrivant, c'est que vos locaux sont situés juste au-dessus du café de Billionaire.
Yes.
Alors, il y a Billionaire ou pas encore?
Non, pas encore.
Aujourd'hui, très concrètement, GoMyCode est valorisé à combien? En millions d'euros, qu'est-ce que ça représente?
C'est drôle, on a commencé directement avec la valorisation. On est aujourd'hui dans les 30 millions de dollars de valorisation à peu près.
Alors que le continent africain compte 200 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans, Yahya Bouhlel estime que leur formation au métier de demain est le défi majeur que l'Afrique doit relever.
Pour la première fois, je pense, l'humanité, on peut travailler en Tunisie, au Maroc, au Nigeria, et travailler pour des startups en Europe, en Asie, en US, à distance, en remote, et gagner des dollars, gagner des euros. Donc ça crée vraiment une big opportunity for these countries, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a des vrais problèmes de illegal immigration dans les pays où on est présent.
Et c'est aussi pour ça que votre modèle intéresse des dirigeants occidentaux. Je crois que tu as rencontré Emmanuel Macron il y a quelques jours, c'est
yes.
Ça? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il a dit pourquoi on n'investit que 2 millions ou que 1 million? Pourquoi on n'a pas investi 5 millions? C'est pas normal.
D'ici 2 ans, Yahya Bouhlel ambitionne de multiplier par 5 le nombre d'étudiants qui suivent ses cours. De quoi garder le sourire encore.
Ah, c'est vrai, ok.
Amira Suilem, Tunis.
Garder le sourire encore longtemps, voilà une belle formule qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à notre dernier invité du jour, Vincent Rouex. C'est le PDG d'Inetom, l'une des plus importantes sociétés de services du numérique français. Inetom, 27 000 employés dans le monde, vient de changer d'actionnaire de référence. Bain Capital a succédé au Qatari Manai. C'est une nouvelle étape dans le développement de cette entreprise qui, elle aussi, compte renforcer sa présence sur le continent africain. Vincent Rouex, interrogé par Olivier Roger.
Bonjour Vincent Rouex.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Inetom, que nos auditeurs connaissent sans doute mieux sous son ancien nom, GFI. C'est une société qui propose depuis 1970 des services informatiques aux entreprises. Vos activités regroupent plusieurs métiers, ça va du conseil à l'infogérance, en passant par l'ingénierie et les logiciels. Et pour les béotiens que nous sommes, qu'est-ce que Inetom propose exactement aux entreprises?
Alors effectivement, on a un long cursus derrière nous, mais aujourd'hui, on se positionne comme un acteur global de la transformation digitale pour accompagner nos clients, qu'ils soient des grands comptes, l'administration, des ETI, dans leur transformation et tirer le bénéfice de toutes ces innovations qui vont leur permettre de contribuer à l'amélioration de leurs activités, au développement et à la performance de ces activités.
Vincent Rouex, on va reparler de toutes ces dimensions, notamment de la dimension africaine, mais avant cela, je voulais quand même que vous nous expliquiez ce début d'année 2022. Inetom, votre entreprise, a changé d'actionnaire et c'est un changement fondamental. Qu'est-ce que vous espérez de ce nouvel actionnaire et qui est-il ?
Alors d'abord, on a effectivement vécu une période depuis 2015 avec un national historique, Manai Corporation, qui nous a permis de passer de un peu moins d'un milliard à 2 milliards d'euros, hein, ce qu'on nous sommes devenus en 2021, de chiffre d'affaires, bien évidemment, avec 16% de croissance, une forte dynamique. Et nous avons eu une discussion, effectivement, pour repasser la main, j'irai à un nouvel actionnaire, pour une nouvelle phase de développement.
Et pourquoi Manai, pourquoi le Qatari Manai voulait vous quitter, finalement?
L'intention des Qataris n'était pas de quitter et de dire aujourd'hui, on rentre dans une deuxième phase. Est-ce qu'ils étaient prêts à accompagner cette phase en participant au développement, au financement des opérations que nous souhaitons faire? Ou est-ce qu'ils préféraient, après avoir accompagné le groupe, passer la main? Ils ont pris la décision pour des raisons aussi locales. Je crois que le groupe se recentre sur le Qatar et sur le Moyen-Orient. Ils ont préféré passer la main à un actionnaire qui dispose des moyens, à la volonté de nous accompagner sur un plan ambitieux de développement et de croissance en participant au financement de ces opérations.
Vincent Wax, d'un point de vue personnel, quand votre actionnaire Qatari vous annonce qu'il va s'en aller et qu'il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, comment ça se passe quand on est PDG? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous vous dites ça y est, c'est la catastrophe ou...
Alors écoutez, d'abord, c'est pas comme ça que ça se passe puisque j'ai toujours eu pour habitude d'essayer de proposer des solutions à mes actionnaires et donc cette discussion a été entamée depuis quelques années sur leur capacité ou leur volonté à vouloir nous accompagner.
Et ça se passe bien, ce genre de transfert? On ne tremble pas à un moment? On ne se dit pas, bon, je joue ma tête ou l'avenir du groupe?
L'avenir du groupe, oui, ça c'est important. Ma tête, ce n'est pas forcément le sujet le majeur.
L'objectif aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la croissance externe et interne. Mais externe est important pour vous. Vous avez rappelé d'ailleurs que depuis votre arrivée, vous avez procédé à 37 ou 38 acquisitions d'entreprises que vous avez intégrées dans le groupe Inetom. Vincent Rueix, pour grandir, il faut racheter.
D'abord, un point majeur pour nous, nous sommes repartis en acquisition, donc en croissance externe, qu'une fois la croissance organique retrouvée. La croissance externe n'étant qu'un accélérateur. Et donc, être capable d'accélérer pour créer des tailles critiques sur des métiers donnés, tout ça est un peu plus long. Et donc, la capacité à accélérer en achetant des sociétés qui vont nous permettre d'accueillir rapidement des compétences fortes, de donner des tailles critiques sur des marchés pour pouvoir nous développer et renforcer notre croissance organique est un élément majeur.
C'est aussi la condition de l'innovation pour vous?
Alors, c'est aussi la condition de l'innovation, c'est l'atteinte de cette taille critique, puisque c'est des investissements importants, la capacité à prendre des risques aussi sur le développement de nouveaux modules, de nouvelles fonctions, qui parfois sont voués à l'échec. L'innovation n'est pas toujours garantie. Et donc, c'est plutôt cette taille critique que nous atteignons à travers les croissances externes de façon plus rapide qui nous permet d'innover. Et c'est cette taille critique dans le pays qui est fondamentale pour deux raisons majeures. La première, c'est d'être un acteur de référent capable de lutter contre les gros concurrents que nous avons mondiaux, et puis surtout être un acteur de référent visible, d'où le changement de nom que nous avons opéré il y a quelques mois maintenant, pour pouvoir attirer et bien sûr retenir les talents.
En parlant de taille critique, un pays où vous avez atteint cette taille critique depuis longtemps, c'est le Maroc. Les Marocains vous connaissent parce qu'ils ont accompagné, ou GFI a accompagné, la transformation numérique au Maroc depuis de très longues années. Je crois que ça fait plus de 25 ans. Exactement. Vous êtes au Maroc. Est-ce que le Maroc est un axe de pénétration pour les marchés africains?
Clairement, le Maroc étant pour nous à la fois un marché conséquent, un marché de nearshore aussi, puisqu'on a des centres de services.
On va définir ce que c'est.
Alors, où on travaille pour la France ou d'autres pays. Et puis le Maroc est notre hub pour aller supporter nos activités dans une organisation globale panafricaine.
Restons un instant sur le Maroc. Vous travaillez à la fois pour les entreprises locales et aussi pour les entreprises françaises qui externalisent leurs activités.
Exactement.
Au Maroc. Expliquez-nous.
On a toujours dans ces pays, je dirais, trois grandes stratégies que je séparerai. La première qui est effectivement d'accompagner nos grands clients internationaux, les BNP, Orange, Société Générale, qui œuvrent sur l'Afrique de façon générale et en particulier au Maroc. La deuxième stratégie a été, à partir de cette première axe de développement, de développer des activités de centres de services au profit de la France, que nous avons fait au Maroc, on le fait aussi en Tunisie, où nous travaillons avec des plateformes délocalisées pour porter des services. Ça, c'est le deuxième axe de développement du pays. Le troisième sujet ensuite, c'est d'aller attaquer le marché local, à la fois dans sa dimension privée et publique.
Donc vous êtes Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun?
Alors nous avons des implantations physique avec des équipes stables dans les sous-régions que vous venez de citer, plus la Tunisie. Nous avons quelques opérations historiques en Angola, de par nos activités portugaises, hein, Angola, Mozambique. Et nous opérons à partir de ces plateformes. Nous avons des équipes dédiées locales. Et c'est notre modèle, hein, c'est de s'implanter localement dans ces pays et pas uniquement d'aller en mode projet et traiter des opérations. Et à partir de ces plateformes, nous sommes présents. Nous opérons dans tous les pays, dans les sous-régions autour, y compris en Algérie, à partir de la Tunisie ou d'autres pays sur lesquels nous intervenons, au Bénin, au Congo, et ainsi de suite.
Quand vous êtes sur un marché ivoirien, angolais ou marocain, est-ce que vous trouvez les compétences locales maintenant, désormais, ou est-ce qu'au contraire, vous avez encore besoin de former ces compétences locales?
Alors, il y a les deux. Hein. Notre sujet, nous, effectivement, de façon à nous différencier de nos grands confrères que vous citiez, c'est d'aller proposer à nos clients une démarche progressive de localisation des compétences. Et donc, il est clair que dans un premier temps, les expertises qui n'existent pas sur le territoire viennent de l'Europe ou du Maroc, parfois, où on a effectivement déjà l'expertise. Mais par contre, nous localisons, nous formons et nous développons localement des activités pour pérenniser l'activité. Et c'est dans cette dynamique-là que nous créons aussi des partenariats avec les universités, les écoles pour former des équipes. Et puis aujourd'hui, on a aussi une autre filière qu'on essaie de développer, c'est de relocaliser, si je peux me permettre, des compétences fortes qu'on a en France avec des gens qui reviennent.
Des répates.
Voilà. Alors, il se trouve qu'effectivement, il y a un gros flux aujourd'hui compte tenu de la demande dans l'autre sens. Mais nous, on est toujours intéressés avec des équipes qu'on connaît sur la France, par exemple, à les relocaliser dans leur pays pour apporter et contribuer au développement local.
L'Afrique est particulièrement bouillonnante en ce moment, notamment dans le domaine des fintechs. On voit beaucoup d'innovations, beaucoup de créations d'entreprises de services. Est-ce que vous avez songé à des alliances ou des rachats d'entreprises en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun?
Alors nous, on a souvent opéré par acquisition dans ces pays. Alors le Maroc, d'ailleurs, est une acquisition historique. Hein. Au Cameroun, nous avons racheté une société. Nous avons en Côte d'Ivoire racheté. Donc on regarde effectivement comment on peut consolider des petites sociétés qui apportent leur expertise et puis surtout leurs managers locaux, puisque notre stratégie, elle est quand même de, à chaque fois, localiser nos équipes et nos patrons de pays avec des gens qui sont insérés et intimement incrustés dans le tissu économique local, ce qui est fondamental. Donc l'acquisition est un sujet qu'on regarde bien évidemment dans toutes nos plateformes et en particulier en Afrique.
Mais quelle est la bonne solution? Est-ce que ça consiste à racheter ou est-ce que ça consiste à favoriser l'émergence d'un écosystème qui ferait vivre peut-être davantage le marché?
Bah, l'un va avec l'autre. Hein. Nous, on a besoin de racheter pour pouvoir s'implanter localement et ensuite apporter toutes les compétences que je citais, puisque notre modèle est toujours le même. À partir d'une expertise qu'on rachète avec une équipe locale très implantée et lui apporter le support du groupe pour se développer sur les autres métiers qu'il ne pratique pas. Dans ce cadre-là, il y a aussi effectivement d'être capable de lier des partenariats opérationnels avec des entreprises locales pour arriver à constituer un réseau global de prestataires, créer des partenariats industriels qui permettent à ces startups de bénéficier de la structure de notre groupe pour aller opérer sur des gros appels d'offres où ils n'ont pas ni les moyens ni la compétence. C'est aussi une passerelle pour eux, un levier pour se développer.
Contrairement à des entreprises comme Atos, Capgemini qui vont en Asie ou en Amérique du Nord, vous allez en Afrique, vous y croyez?
Nous avons décidé d'aller sur ces périmètres que sont l'Europe de l'Est, l'Amérique latine, l'Afrique, parce que justement nos grands confrères n'y vont pas ou n'y croient pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils n'y croient pas, mais ils ont des parts de marché plus importantes en Asie, aux États-Unis, en Angleterre. Nous, dans notre stratégie d'être un acteur majeur et de penser que cette capacité à opérer de façon premium dans un pays est un vrai avantage, nous n'avons pas les capacités à aller aux États-Unis, à aller en Angleterre, même si on y travaille de temps en temps, mais ce n'est pas notre stratégie. Donc cette stratégie, elle est clairement différenciante pour nos clients, selon je citais. Notre stratégie, c'est d'être à 100 millions, hein, déjà, sur ce territoire-là. J'enlève l'Afrique du Sud et le...
Vous êtes à 50 pour l'instant, si je...
50-60, ouais. On a fait. C'est une taille majeure qui nous permettra d'opérer sur ce territoire et de bénéficier de sa dynamique de croissance de façon globale.
Vincent Rouex, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé votre temps.
Merci beaucoup.
Le PDG d'Inetom, Vincent Rouex, avec Olivier Roger du service économie de RFI, que je remercie au passage pour son implication tout au long de l'année dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Une saison s'achève, elle aura été riche en émotions. On a encore une pensée pour notre collègue Stanislas Daichimier, décédé en novembre dernier. Un salut amical à Jean-Pierre Boris qui coule une retraite active et heureuse. Un grand merci à ceux qui se succèdent à la réalisation de cette émission, Guillaume Munier en particulier, mais il n'est pas le seul. Éco d'ici, Éco d'ailleurs ne s'arrête pas en juillet. Vous allez revivre les moments forts de ce premier semestre. Et la semaine prochaine, on parlera tout naturellement de souveraineté alimentaire. Bonne journée, bonne soirée sur RFI. Portez-vous bien.